Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, un invité qui a pas peur d'aller au front et dire ce qu'il pense et donner des informations pertinentes. Je suis accompagné de Martin Bourget, président d'Aventure Chasse et Pêche. Bonjour Martin, ça va bien?
Salut Sam, comment ça va toi?
Ah, ça va super bien. La vie me tient occupé, puis j'ai du fun. Je t'ai dit Martin, amenez-en des projets, amenez-en.
On est d'un beau domaine, on est d'un beau domaine pour ça.
Martin, tu es une personne qui donne beaucoup d'informations et qui a un projet à cœur. Je parle ici du le fameux sujet de la loi C-21.
Oui, définitivement.
À la base, c'est un bon projet pour protéger le citoyen. Tout le monde est d'accord avec ça, mais depuis quelques mois, je vois, il y a plusieurs informations qui circulent, puis on va peut-être un peu trop loin dans le projet de loi, là. Puis j'ai l'impression que ça brime des gens qui n'ont rien à voir avec, disons, la violence ou des actes criminels.
Bien, définitivement. Puis, tu sais, j'oserais même dire que très dernièrement, ça l'a dérangé une masse beaucoup plus grande, mais il faut se rappeler que C-21, dès le départ, est débarqué complètement de son centre. Tu sais, il faut comprendre C-21. On a là un projet de loi qui est présenté par un caucus sérieux qui nous dit vouloir mettre en place des mesures pour diminuer la criminalité reliée aux armes illégales, aux armes. Au départ, on parle des armes, point final. On dit la criminalité armée. Il y a des gens qui sont blessés ou qui meurent dans les rues. Il y a des malfrats qui utilisent des armes. Et on veut mettre en place des moyens pour réduire ce type de criminalité-là en particulier. Tu sais, quand on entrevoit un problème, exemple, il y a de l'eau qui rentre par le plafond de ton salon, on va commencer à regarder la source un peu d'où provient probablement cet écoulement d'eau-là, puis on va aller mettre un bouchon sur le tuyau. Donc, on commence à se poser des questions sur... Mais d'où vient cette criminalité armée-là? Donc, où est-ce qu'on peut aller appliquer une solution? Puis, essentiellement, dès les premiers balbutiements de la C-21, au lieu d'aller mettre un bouchon ou de fermer la valve de ce tuyau-là qui coule, qui crée l'écoulement au plafond chez vous...
Quand tu dis le tuyau, la fuite, on parle ici de criminalité, entre autres, là.
Oui, je fais le lien vraiment avec la criminalité parce que, tu sais, on identifie le problème. On sait dès lors, au travers des associations de chefs de police, des services frontaliers, les maires des municipalités, les études post-mortem du registre fédéral qui ont été faites au Canada dans la corrélation et de la présence des armes légitimement détenues ou encore criminellement présentes sur les rues, lesquelles sont incluses dans les armes, dans les crimes. Donc, on connaît la source. On sait qu'au Canada, on a quelque chose de particulier avec les États-Unis qui est la plus longue frontière inter-pays aussi poreuse qu'on l'a là, dans le monde. Hein, on a une frontière qui est excessivement poreuse. Ils passent de tout par là. Ils passent des armes, ils passent du tabac, ils passent de la drogue, ils passent de l'alcool, ils passent des immigrants illégaux, ils passent... Et on a un problème à contrôler ça. Et quand on regarde l'entonnoir, ben, on va voir des gens comme, par exemple, Bill Blair, qui est maintenant dans la famille Trudeau, donc avec les libéraux, et qui cible... Le bannissement de plein d'armes qui sont légitimement détenues par les propriétaires légitimes d'armes à feu. Mais on va voir des vidéos dans le passé où est-ce qu'il était chef de police de Toronto dire très clairement mes officiers de police quand ils sont dans les rues et qu'ils interviennent sur des méfaits. Eh bien, on se rend compte que 90% et plus des armes qui sont présentes dans ces méfaits-là proviennent de l'autre bord de la frontière, sont illégalement importées.
Oui.
T'sais, un des principaux acteurs, au moment où est-ce qu'il est chef de police, reconnaît la même chose que l'ensemble des chefs de police du Canada sur d'où vient l'entonnoir, il est où le robinet qu'il faudrait fermer pour diminuer la criminalité. Et là, rapidement, le gouvernement, dans l'application de ces mesures, parce que là, il y a toujours les mesures qui sont présentées, puis il y a l'application de ces mesures-là. Bien, au lieu d'aller fermer le robinet du tuyau qu'on connaît, là, qui est la frontière et les armes criminalisées, des gangs criminalisées, bien, on s'en va fermer l'eau à la municipalité, hein, carrément. On dit, bon, regarde, on va couper tout le monde. Il y a un problème avec l'eau, ça coule au plafond, on va couper tout le monde. D'emblée, vas-y.
Quand tu dis « on va couper tout le monde », c'est-à-dire on va ratisser large dans les restrictions des possessions d'armes à feu, c'est ça?
Exactement, parce que dès le départ, on introduit la notion « arme d'assaut », qui est une notion qui n'existe pas au bureau du contrôleur des armes à feu. Donc, dans la législation canadienne, le terme « arme d'assaut n'existe pas. Au lieu de définir le terme arme d'assaut pour pouvoir en appliquer des restrictions, eh bien, on va déterminer que tout ce qui ressemble cosmétiquement ou fonctionnellement à une arme militaire, et on va se baser beaucoup au départ sur la fameuse AR-15. La AR-15, là, c'est l'arme militaire que vous voyez régulièrement, qui au départ est un petit peu la pierre angulaire du début du débat, parce qu'on stipule que pour eux autres, ils stipulent qu'une arme d'assaut, c'est une arme qui a été conçue pour des fins militaires. Alors que l'AR-15, la première cible, l'Armalite Rifle numéro 15, avait été conçue pour les fermiers, les chasseurs, pour faire de la déprédation sur les terres agricoles, puis récupérée par les forces parce que c'était une arme qui, ergonomiquement parlant, était bien conçue. Et tu vois, on introduit cette première arme-là, puis on va tout de suite introduire d'autres armes, mais pas par leur caractère fonctionnel, par leur caractère historique. La Ruger Mini 14 qui était présente dans les assauts au niveau de la Polytechnique. On va introduire des armes comme ça qui ont un caractère plutôt historique, qui ont créé des méfaits. Mais si on prend juste la Ruger Mini 14, c'est un calibre 2.23. On la prétend comme arme d'assaut de destruction massive, alors que le gouvernement canadien, québécois, ne l'autorise même pas pour la chasse au grand gibier, tellement c'est pas suffisamment puissant pour ça.
Donc, ben là, tu m'amènes de quoi, Martin? C'est pas... Quelque part, on peut pas dire que c'est pas dangereux, mais c'est anodin à travers toutes les armes qui existent, là. Puis on va restreindre cette arme-là. Hein. Là, j'ai une image assez concrète, là. Peut-être qu'on ratisse pas à bonne place, ou...
Ben, tu vois qu'au départ, on a une définition, on identifie un problème et une source, et tout de suite dans l'application, on s'en va complètement hors champ dans l'application. Et là, on va accepter de bannir l'AR-15, et on va tout de suite inclure, en début de parcours, le terme « essai variant ». Bon, et ces variants, là, ça, c'est une porte qu'on appelle Evergreen, ou on n'a pas vraiment de bon terme en français.
Ben Martin, Evergreen. Moi, j'en ai une pour toi. Parce qu'on voit ça des fois avec des collègues de travail au fil du temps. Exemple, moi, ma tâche, je suis réceptionniste et toute autre tâche connexe.
Oui, exactement, exactement. Mais on va conserver un caractère où est-ce qu'on va permettre dans la législation, dans le futur, de venir amender la liste qu'on va créer. Et une des premières armes qu'on va bannir comme étant un variant de l'AR-15, c'est une arme qui est fabriquée par Deria, qui est le Deria MK-12. Pour vous situer, c'est un fusil de calibre 12 qui a un look un peu AR-15. Donc, il y a une poignée ergonomique à l'avant et une crosse ajustable. Donc, ergonomiquement parlant, je peux l'ajuster, que ce soit pour faire du tir à la cible, de la chasse à la sauvagine ou encore de la chasse au petit gibier. Mais déjà, là, vous voyez que dans variant, l'AR-15, c'est une carabine. Le Deria MK-12, c'est un fusil. C'est deux classes complètement séparées.
On est carrément ailleurs. Là, je comprends bien le sens esthétique. On va toucher à l'esthétique, mais le danger n'est pas nécessairement là.
Et voilà. Donc, tout de suite, les tireurs sportifs vont monter aux barricades. Et malheureusement, au début, les chasseurs ne se sentent pas interpellés par cette première passe. Non, on va l'appeler la première passe de C-21, si on le veut. Okay. Et les chasseurs ne monteront pas aux barricades, mais les tireurs sportifs vont tout de suite s'identifier. Mais écoute, nous, pour être efficaces au tir sportif lorsqu'on fait de la compétition, comme Myriam Bédard le faisait dans le passé, et on l'a monté haut et fort sur des podiums, eh bien, on rend nos armes ergonomiques avec des accessoires qui nous permettent de faire un tir plus précis. Et ça se déclinera du côté de la chasse par la suite, dans le fait qu'on peut rendre une arme de chasse aussi plus ergonomique pour effectuer un tir qui va être plus précis, dans lequel on retire la vie d'un animal à la chasse. On va être le plus efficace possible, faire un tir le plus précis possible, et on se donne les moyens pour le faire. Mais à ce moment-là, les libéraux disent tout simplement non, on cible les armes de destruction massive, les armes qui pourraient rapidement faire des décharges mortelles, et on identifie très rapidement tout ce qui, cosmétiquement parlant, c'est comme si on prendrait un Honda Civic, mais une fois un aileron dessus, là, on n'a plus le droit parce que c'est rendu un char de course. On n'a pas changé la fonctionnalité, on a changé l'esthétique. Donc, tu vois qu'on est rendu loin du centre où est-ce qu'on veut protéger les rues en enlevant qu'est-ce qui fonctionnellement ou de par son sourcing, de sa provenance, passe sous les radars et peut être problématique. On est déjà rendu dans le champ gauche. Et là, on parle juste de la première passe de C21.
Martin? On parle de la première passe, puis moi, ce que je t'écoute, je te comprends bien, il y a plusieurs personnes avec de bonnes connaissances à ce niveau-là. Est-ce qu'elles sont écoutées? Est-ce qu'elles ont été consultées dans cette grosse liste-là? Parce que je comprends assez vite ce que tu me dis, puis je me demande, ça sort de où, cette liste-là? La volonté de vouloir protéger, je suis plus que 100 000% d'accord avec, mais ça sort de où?
Il y a eu un comité expert qui a été entendu, évidemment. Comité expert, puis pour la question d'être objectif et transparent, mais bien, tu as toujours t'as deux extrêmes. Hein? Tu as les anti-armes et tu as les pro-armes. On va les nommer comme ça, malgré que j'aime pas les termes, parce que ça crée de la dissociation. On a tous un but commun. Dans le fond, on veut protéger nos ticounes dans les rues pour pas qu'ils grandissent avec ça. puis on fait une dissociation majeure. Alors, il y a le lobby anti-armes qui convoque ses experts et il y a le lobby pro-armes qui convoque ses experts et on va écouter ces experts-là. On se rend compte rapidement que ce qui est apporté par le lobby anti-armes, qui sont des armes iconiques des événements du passé, la poly, la mosquée de Québec, etc., sont pris en considération presque sur le fait parce qu'elles ont été présentes dans des méfaits. Et on se rend compte que au moment où est-ce que les experts du lobby qu'on va appeler pro-armes, ou nous autres, on appelle ça le lobby de la grosse logique, là, eh bien, d'accord, va arriver un amendement qui vient tout changer, puis on va faire fi complètement de ces comités d'experts-là qui vont avoir passé, et on va tout simplement appliquer unilatéralement la première passe de C-21. Puis ça, là, essentiellement, si vous voulez des chiffres, il y a des magasins de chasse et de pêche, localement à l'entour de chez nous ici, il y a un magasin de chasse et pêche, et oui, là, on parle de chasse, là, il y a aussi des armes de tir sportif qui est aux prises avec au-delà de 250 000 $ en inventaire d'armes qui sont non remboursées, non remboursables, qui sont des armes qui, fonctionnellement, ne répondent pas à la base de l'application de la loi, mais qui, par des critères esthétiques, ont été déclassées. Et ça, ce n'est que la grave. Première phase de C-21.
Oui, c'est la pointe de l'iceberg.
On va fermer des commerces, là, littéralement. Puis là, déjà, Samuel, on parle d'un programme de rachat. Déjà dans la première passe. Alors là, il faut faire comprendre aux gens, là, la population qui est peut-être pas pour les armes.
Martin, là, tu arrives à un nouveau point qui est vraiment intéressant. On va prendre un petit moment, aller à la pause. On revient tout de suite après la pause. On continue notre dossier.
Parfait.
Martin, juste avant la pause, on parlait du programme. Là, on parle de racheter les armes là, qui vont être bannies si le plan C-21 s'achemine finalement, là.
Oui, puis tu sais, on pourrait aller dans les particularités parce que les armes qui étaient restreintes, qui sont passées à prohiber, là, il y a des discussions à savoir s'il y a un droit, comme un peu un ancien droit grand-père, mais qui serait détruite lors de ton décès si tu décides de les conserver parce qu'elles deviennent prohibées, ou le programme de rachat. Là, la population doit comprendre une chose très, très, très importante. Mais que vous soyez pro, anti-armes, quoi que ce soit, et on va y revenir, là, on est tous d'accord que la prévention au niveau la maladie mentale, l'injection de sous dans les services frontaliers, dans les services policiers, dans des opérations comme l'opération Centaure qui retire de la criminalité armée du terrain. Et si on regarde la base de cette loi-là et la source du problème, définitivement la solution, l'injection de budget là-dedans. Mais on y va dans le bannissement d'armes, puis un programme de rachat qui a été calculé par certains gens de l'opposition. Écoutez bien, là, c'est des millions d'armes au Canada. Des millions d'armes. Admettons qu'on met ça en moyenne à 500 $ par arme, là, c'est des milliards de dollars qu'on est prêt à mettre dans un programme de rachat. Ça, c'est de l'investissement direct à part de tout ce qu'on va couper. On parlait tantôt des magasins de chasse et de pêche. On parlait des pourvoyeurs qui ont des Américains qui traversent pour chasser. On parlait de l'économie périphérique, le magasin où est-ce que tu arrêtes quand tu vas à la chasse, la pourvoirie, le dépanneur, l'essence. On s'enligne sur des pertes nettes de milliards de dollars et en retombées et en investissement dans un programme de rachat, alors que l'ensemble de la population est d'accord que si on veut enrayer le crime, on a besoin de programmes d'intervention en santé mentale, Sam.
Tellement d'accord, Martin, tellement d'accord, parce que la santé mentale, malheureusement, à chaque semaine, on entend des cas, on voit des choses qui nous attristent. C'est pas relié toujours avec une arme. Je veux même pas rentrer dans les détails. On a toutes nos images. L'argent devrait être plus au niveau de la santé mentale, la prévention, puis aller cogner là où ça fait mal, où est-ce qu'on peut utiliser le bon médicament sur le bon bobo, là.
Ben exactement. T'sais, juste réduire l'entonnoir en dotant nos services frontaliers de meilleurs scanners, de plus d'agents, de plus de postes de guet, etc. C'est ce qu'ils demandent. On a la frontière la plus poreuse à l'international. Ils passent ce qu'on veut par là. Si tu veux passer du fromage de manière illégale, là, t'es dans le meilleur pays au monde, là. Là, c'est des armes, c'est ça qu'on cible. Du fromage troué. Puis là, tu sais, de là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va évoluer dans pas mal du jamais vu dans le passé. Les libéraux vont déposer, à l'automne dernier, deux amendements. Là, on rentre dans les termes, on veut pas faire saigner personne du nez, non, mais G4 et G46, pour ceux qui veulent prendre des notes. Une des premières fois en législation, on voit un amendement quasiment plus gros que le projet de loi.
Okay, c'est lourd.
Mais c'est lourd. On va réagir rapidement à faire comme, mais est-ce que vous saviez ce que vous faisiez en déposant le projet de loi si vous avez besoin d'un amendement pour venir le corriger qui est quasiment aussi gros que le projet de loi? Sauf que là, cet amendement-là va venir frapper directement dans le cours des chasseurs. Là, ce qu'on dépose comme amendement, c'est qu'on va, on s'enligne pour rendre illégal, donc pour bannir littéralement, hein, mettre dans la catégorie prohibée. Écoutez bien, là, toute arme à mécanisme semi-automatique à percussion centrale ayant la capacité d'avoir un chargeur détachable de 5 balles et plus. En français, les Browning Bar, plusieurs Remington, il y a beaucoup, beaucoup de vos armes de chasse standard en semi-automatique, les fusils des sauvaginiers, tout le monde est ciblé.
C'est ça qui est dans la tête, oui. Les sauvaginiers, on a besoin d'un peu plus de rapidité. Ça va très vite, l'oiseau au vol, là. C'est comprenable.
Oui, ce sont des semi-automatiques. Puis là, comprends, Samuel, une chose, c'est que lorsqu'on dit 5 balles et plus, et je suis d'accord avec la population qui réagit présentement en t'écoutant en disant, vraiment, tu as besoin de 5 balles et plus. Le problème n'est pas là. Au Canada, ils sont distribués avec des chargeurs de 3 balles. Mais la même arme, si elle était disponible lors de sa mise en marché dans un autre pays avec un chargeur supérieur, donc de 5 balles et plus, elle devient illégale. Alors, ta Browning Bar ou ton fusil semi-automatique pour la sauvagine, toi, tu l'as à 3 ou 4 balles. Mais si un autre pays est disponible à plus que ça, elle tombe illégale automatiquement. Donc là, on ciblait encore là les Premières Nations, les fermiers, les collectionneurs d'armes, les tireurs sportifs, les chasseurs de subsistance, les chasseurs sportifs, on allait rajouter dans le panier encore une autre couche de millions et de millions et de millions d'armes, donc d'autres milliards en programme de rachat, d'autres centaines de milliers de dollars dans les magasins de chasse et de pêche, d'autres milliers de clients de moins pour les pourvoyeurs, pour encore cibler quoi? Une catégorie de propriétaires d'armes à feu qui, suivant toutes les études qui ont été faites en criminalité, dans l'histoire de la criminalité au Canada, ne sont pas présents dans les actes criminels. Point à la ligne. Point à la ligne.
Ah oui, ça me remet vraiment à notre début de rencontre, là. On ratisse trop large, là. Puis, tu sais, Martin, tu me parles, c'est simple, c'est cristal clair pour moi, c'est évident, c'est trop large, à gauche ou à droite. Puis, j'ai le goût de te dire, je t'en ai parlé tantôt, mais est-ce que vous êtes écouté? Est-ce qu'il y a du chemin? On s'en va-tu vers quelque chose de bien au niveau de la communication? Parce que moi, je ne sens que des propos positifs de ton côté, des gens qui militent pour la discussion à ce niveau-là. Êtes-vous écouté?
On est écouté. Écoute, les organisations, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a eu des rencontres avec les différents ministres. J'ai été présent dans une rencontre avec le ministre fédéral de la Sécurité nationale, qui est M. Mendicino. On était présents dans plusieurs rencontres avec les Pierre Poilievre, les Raquel Dancho, Mutz Lloyd, et etc., du côté des conservateurs, à ce point que je pense fortement que les efforts, entre autres, de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, de la NFA, du CCFR, qui sont nos deux grosses associations qui nous représentent, ensemble avec les efforts avec le Parti conservateur, font partie de ce qui a fait que les libéraux viennent tout juste la semaine dernière d'abandonner les amendements G4 et G46. Donc, les amendements qui ciblaient les armes semi-automatiques. Parce que là, le NPD, le Bloc, certains même ministres libéraux ont commencé à s'opposer. Ils ont été obligés de laisser tomber. Écoutez jusqu'à quel point, eh bien, tu vois, il y a un courriel qui vient de rentrer pas plus tard qu'hier. Moi, le premier, je suis appelé à comparaître dans le comité expert à Ottawa, soit mardi de la semaine prochaine ou le mardi qui suit. Là. Donc, je pense le 14 février ou le 8 mars, quelque chose comme ça, le mardi deux semaines plus tard. Donc, moi, le premier, je suis appelé dans ce comité expert-là. Raquel Dancho, donc, fait appel à moi pour aller donner mon avis sur vers où on s'en va et qu'est-ce qu'on devrait considérer comme arme dans le respect de la propriété personnelle des propriétaires légitimes d'armes à feu. Alors, on est écouté. Mais il y a un gros bémol à ça.
OK, parce que là, tu étais après m'enchanter.
Non. Il y a un gros bémol à ça. Faut pas oublier là-dedans que dans le parcours, il y a un point dont on n'a pas parlé qui fait plus peur aux gens, mais quand on considère et on laisse tomber tout ce que les médias de masse font, on va comprendre que ces armes-là sont incluses dans les mêmes statistiques non présentes dans la criminalité. Le gouvernement a opéré un gel national sur les armes de poing. Ah, les tireurs sportifs qui tirent en salle, donc dans des salles de tir à la cible sur du papier, dont les armes, ils ont droit à la propriété comme les autres propriétaires d'armes à feu. Ces armes-là ne sont pas présentes dans la criminalité non plus, celles qui sont légitimement détenues. Ah, on les a gelées complètement. Ça fait encore partie du débat. Mais là où est-ce qu'on a excessivement peur, puis il n'y a aucune notion ou il n'y a aucune volonté de revenir sur le gel des armes de poing, puis on va se battre pour ça définitivement. Là, on a abandonné les deux amendements. Mais on connaît le verbatim qui étaient présents dans le temps avec C-42, C-68, C-71. Là, on est dans C-21.
Ça n'en fait pas mal, ça, là, des C. Là.
Oui. On a attaqué les armes à plusieurs. Tu sais, depuis 1994, on a attaqué beaucoup, beaucoup. On a réformé énormément. Une population qui est une des populations les plus responsables avec tous les systèmes qu'on se met en place pour la délivrance d'un permis. C'est le processus administratif le plus lourd au Canada, plus qu'un divorce ou un mariage, d'obtenir un permis. Là. On est vérifié aux 24 heures. Dans le système fait un roll-up aux 24 heures pour voir s'il y a des méfaits qui ont été ajoutés à notre dossier. On est responsabilisé. On a des systèmes en place. On a des études sur le dos qui nous prouvent comme non présents dans la criminalité. Puis là, regardez la politique. On aura appris à interpréter les propos politiques avec M. Legault dans le temps de la COVID, où est-ce que la population commençait à s'habituer à écouter ce que M. Legault disait une semaine, parce qu'il mettait en place ce qu'il allait mettre comme mesure la semaine d'après dans son speech. Bien, faites le même exercice. Écoutez les libéraux présentement. Ils ont abandonné G4 et G46 parce que ça en était rendu farfelu. Mais tout de suite, ils sont arrivés avec le verbatim de « Vous savez, même le lobby pro-arme nous a dit que le terme « arme d'assaut » demanderait à être mieux défini. » Et là, on commence à annoncer qu'on va arriver avec un nouvel amendement. Alors là, ce que nous, on a peur et ce qui va se passer, ils l'ont annoncé.
Ce que tu dis, c'est très sérieux. Je veux qu'on y aille mettre une chanson pour alléger ça. Puis on en revient avec ton punch parce que je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe. T'as-tu quelque chose que tu voudrais me proposer?
Nous autres, on est des gens pas mal de country. T'as-tu quelque chose qui est léger, là? Quelque chose comme Down to the Honky Tonk? Ça ferait plaisir à Martin.
C'est sûr et certain. Regarde, on va se mettre sur cette note-là. Ben oui. Donne-moi 2 secondes, je vais te trouver ça.
Moi, j'étais sûr que j'allais te mêler. Je dis, il n'y aura pas ça, là, puis tu l'as.
Jake Owen?
Exactement, yes. Ça va faire du bien. Ouais, c'est léger, prenez ça festif, ça fait du bien.
C'est good, on écoute ça puis on revient avec le punch et les informations finales de l'émission.
You're right.
Got a house down a back road, got a flag on the front porch, got a dog named Waylon. I got a driveway that needs paving. I got a boat with a 2-stroke, a couple guaranteed to make you laugh jokes. I got friends in low places. Yeah, life is what you make it. I might not end up in the Hall of Fame with a star on the sidewalk with my name, or a statue in my hometown when I'm gone. Nobody gonna name their babies after me. I might not go down in history, but I'll go down to the honky-tonk. Got a girl named Sheila. She goes batshit on tequila. Got a job that gets the job done. I got a loan at the bank, it's a big one. The only place you might see my name is on a wall for a good time call. I'm a local legend on a Friday night in a Pabst Blue Ribbon neon light. I might not end up in the Hall of Fame with a star on the sidewalk with my name, or a statue in my hometown when I'm gone. Nobody gonna name their babies after me. I might not go down in history, but I'll go down to the honky-tonk. Honky-tonk, I go down to the honky-tonk, I go down, I go down to the honky-tonk, I go down to the honky-tonk, I go down to the honky-tonk, I go down, I go down to the honky-tonk.
Let's go, come on.
I might not end up in the Hall of Fame with a star on the sidewalk with my name, or a statue in my hometown. Nobody gonna name their babies after me. I might not go down in history, but
retour avec Martin Bourget. Martin, juste avant d'écouter ta chanson, qui est très bonne en fait.
Oui, c'est bien, ça.
Oui, c'est très cool, c'est très cool. Tu nous disais, là, puis si je comprends bien, les deux amendements qui étaient proposés par les libéraux ont été maintenant abandonnés ou on les oublie, on s'en va ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? On peut s'attendre à quoi maintenant, là, en 2023?
Ben, première des choses, ça, faut être clair, là. Donc, ça a été tellement prouvé obsolète, même des ministres libéraux s'opposaient littéralement à G4 et G46, les deux amendements qui ciblaient des millions d'armes de chasse au Canada, que oui, en sécurité, en comité permanent de sécurité nationale, là, Nord Mohamed a proposé l'abandon du dépôt des deux amendements.
OK.
Au départ, tout le monde a crié victoire. Yes, ils ont lâché nos armes de chasse, tout est réglé. Mais très rapidement, il faut apprendre à lire le verbatim de ces gens-là. Il faut apprendre la politique. Ces gens-là, un peu comme je disais avant la pause, on l'aura appris avec M. Legault, qui mettait en place dans son discours d'une semaine qu'est-ce qu'il allait mettre en place comme mesure la semaine prochaine. Et on a appris à décoder ça. Ah, regarde bien, il va fermer les écoles. Ah, regarde bien. Écoutez le discours actuel des libéraux. Là, ils ont changé leur verbatim et ils ont commencé à introduire et à répéter aux gens. Vous savez, même le lobby pro-armes a demandé à plusieurs reprises à ce qu'on donne une définition plus claire à ce qu'est une arme d'assaut. Alors là, ce qu'on prévoit, puis l'ensemble des associations est d'accord avec ça, et les libéraux ont annoncé s'en venir prochainement avec un prochain amendement à la loi, c'est qu'on va tout simplement reverber ce qu'on avait mis en place avec G4 et G46 pour satisfaire, comme on veut bien l'implanter dans le discours présentement, une demande qui serait, selon eux, unanime, qui est la définition de ce qu'est une arme d'assaut. Et on va tout simplement réattribuer, verber différemment, les définitions d'armes avec les variants qu'on avait mis dans les G4 et G46, mais en ciblant la description d'une arme d'assaut cette fois-ci, pour rentrer encore plus dans les beaux gros mots bonus auxquels la population accède très bien, là.
Ce que je comprends, alors, c'est assez clair. On va reformuler, on va jouer avec les mots.
Oui.
Puis au bout du compte, on va... En tout cas, ce que je comprends, on va revenir avec une proposition pratiquement similaire qui est, selon moi, beaucoup trop large par rapport au danger réel.
Ben absolument. Y a pas... On se serait attendu, Sam, après l'abandon de G4, G46 et tous les points qu'ont ciblé les différents ministres, c'est-à-dire on est complètement à l'écart de ce qu'on voulait dans C21 au départ, qui est protéger les rues, à ce qu'on revienne avec des moyens concrets d'aller vers les armes criminelles, mais on nous annonce déjà qu'on revient avec un amendement dans ce sens-là. Puis là, dites-moi une autre chose. Le NPD, parce que les libéraux ne peuvent pas agir seuls, hein? Ils n'ont pas assez de sièges, ils ont besoin d'être main dans la main, copains avec le Bloc ou encore le NPD. Le NPD qui était en coalition avec eux, qui sont ceux qui, lorsqu'ils se sont retirés et pointés du doigt les amendements, ont fini de casser le moule. Mais là, Peter Julian, qui est le House Leader du NPD, commence déjà lui aussi à tenir un speech, à dire « On est très, très, très en faveur du gel des armes de poing qui est en place et on est très ouvert à écouter qu'est-ce que les libéraux ont à donner comme définition des armes dangereuses. » Par contre, on va être le chien de garde pour s'assurer que ce soit bien fait cette fois-là. Là, le NPD s'annonce comme, vous avez tous écouté des films policiers, on interview un suspect, il y a un bad cop, good cop. Il y a un bon policier, mauvais policier.
Oui, hein? C'est ça, exact.
La même chose est en train de se mettre en place. Le NPD s'annonce de manière très malhabile comme étant le faux avocat du diable qui va venir là-dedans, en Chambre des communes, plaider le faussement pointé du doigt, pour donner accès ou légitimiser mieux, de manière législative, les moyens et les mesures que les libéraux vont mettre en place avec leur nouvel amendement qui va, attendez-vous à ce que ce soit ça, là, les chasseurs, vous n'avez pas fini avec eux autres, là, définir ce qu'est une arme d'assaut. Parce que déjà, Justin Trudeau a mis une définition dans arme d'assaut. Hein. Depuis le début, il dit « toute arme qui est capable de décharger plusieurs balles ou munitions en très peu de temps ». Pour nous, c'est une arme d'assaut. Ça, c'est la définition d'un semi-automatique.
Ouais,
et en 2015, il l'avait dit, je l'ai dit en studio au moment des élections, il l'avait dit qu'il attaquerait les armes semi-automatiques et il va revenir après vos armes semi-automatiques. Ne vous inquiétez même pas.
OK. Ça me donne un peu... Là, je t'ai demandé à quoi s'attendre en 2023. On pourrait dire à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années, Martin. Là.
Ah, mais écoute, ça va être 2023, puis on... Dépendamment de ce qui se passe aussi, parce qu'on s'attend à des élections. Hein.
Ouais,
on s'attend à des élections. qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Justin repasse très, très bien au bulletin de votation à toutes les années. Bon, je ne veux pas faire d'opinion, mais plusieurs vont se demander pourquoi. On attend des élections qui peuvent changer la donne beaucoup, là.
OK. Oui. Ça va être à suivre. Là, oh, je regarde Mamie Nutri, Martin, puis je m'étais dit, on va rentrer ça dans le cadre de l'émission. Et non, je t'annonce officiellement qu'on a défoncé. Mais écoute, c'est un sujet qui est quand même d'actualité, très sérieux. Puis moi, dans mes valeurs, tout comme les tiennes, c'est important de donner les bonnes informations avec neutralité. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait ensemble aujourd'hui.
Oui, définitivement.
Là. Je te remercie beaucoup pour ça. Puis j'ai le goût de dire en terminant, puis je te donnerai un mot de la fin si tu veux. Oui, la sécurité avant tout, absolue. C'est la priorité numéro un pour nous, nos familles, nos enfants. Mais aussi, faut faire attention pour pas ratisser trop large, parce que là, on a un gaspillage d'argent, d'énergie qui pourrait être mis en santé mentale, en prévention, etc. Donc, je pense que ça fait un bon résumé de notre rencontre. Là.
Effectivement. T'sais, mot de la fin, là, il est super simple. Si le lobby anti-armes qui appuie son verbatim ou encore son argumentaire sur une volonté de protéger les rues pouvait rallier ses efforts avec la volonté qu'ont les propriétaires légitimes d'armes à feu de cibler la bonne provenance d'armes qui sont incluses dans la criminalité et faire front commun, on éliminerait le gaspillage de ressources et on s'attaquerait aux vrais problèmes qui tuent des gens dans les rues pour vrai présentement, Sam. Ça, c'est ce après quoi on devrait être présentement. Et arrêtez d'essayer de monter une liste de mémorandums d'armes qui sont inclus dans les malheureux événements du passé qui changeront rien à la criminalité.
Martin, je te remercie beaucoup pour ce moment-là. Je continue, beaucoup de gens continuent de te suivre et je te félicite. Là, on te voit partout à la télé nationale. Tu t'en vas à Ottawa la semaine prochaine. Puis toujours avec un propos qui est positif et éclairé. Merci beaucoup de ta présence. Puis on se reparle bientôt.
Merci à toi, Sam.
À bientôt.
Yes, salut.